retrouvons Christian Cailliol avec sa nouvelle émission La Bougeotte. Bonjour Christian.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, tu nous amènes où ?
Alors aujourd'hui, nous allons bouger en Franche-Comté autour de Dole. Une balade entre le Doubs et la Loue, autour du pays d'Aulois, à la découverte du pays d'Aulois. Alors ces deux rivières, parce que d'abord elles forment un cadre pour ma vidéo qui s'appelle « Entre Doubs et Loue », et surtout parce que ces deux rivières sont intimement liées. Je vais vous expliquer.
Ah oui.
Commençons par la Loue. Alors la Loue, c'est une source qui est dans un cadre majestueux. C'est un porche de belle dimension qui sort au pied d'une falaise rocheuse de 100 mètres de haut. Et c'est une rivière souterraine qui débite environ 6 mètres cubes seconde en moyenne sur l'année et parfois 100 mètres cubes au cours de crue. Elle est impénétrable complètement par les moyens traditionnels. Il n'y a qu'en plongée siphon, bouteille, qu'elle a été parcourue sur plus d'un kilomètre, je ne suis pas certain, que le siphon ait été franchi. Donc c'est vraiment une belle rivière souterraine dans un cadre très intéressant. Un petit quart d'heure de marche pour y arriver. Alors d'où vient cette eau? C'est ça le mystère. D'où vient l'eau de cette source? Le hasard parfois fait bien les choses. Et il a fallu au début du 20e siècle, à la suite d'un orage, à Pontarlier, au bord du Doubs, cette fois je dis bien le Doubs, au bord du Doubs, il y avait l'usine Pernod qui fabriquait de l'absinthe. La foudre a déclenché un incendie et les pompiers, de peur que ça se propage, ont déversé 600 000 litres d'absinthe dans un puits perdu. Que croyez-vous qui se passa? Deux jours plus tard, c'est la Loue qui avait couleur d'absinthe et l'odeur. Donc on s'est dit, il y a un lien entre le Doubs et la Loue. On a fait appel à Édouard Alfred Martel, que les spéologues connaissent bien, puisque c'est le père de la spéléologie, qui a versé de la fluorocéline et qui a prouvé effectivement que la Loue est une résurgence du Doubs. Un petit peu plus bas, il y a une autre résurgence qui s'appelle le Lison, les sources du Lison. Un petit peu le même genre, un porche, une belle cascade, une eau vert-bleu, impénétrable, plongée sur plus d'un kilomètre, mais moins de mystère parce qu'il n'y a pas cette histoire de résurgence. L'eau vient d'infiltration sur le Jura, et il n'y a pas ce mystère. Par contre, c'est magnifique. C'est un lieu de promenade bucolique à 2 km d'un village. Il y a 300 mètres de marche à pied pour y arriver. Beaucoup de personnes y vont. C'est très joli pour prendre des photos, photos de mariage et autres.
Et si je comprends bien, donc on est sur une géologie bien particulière là.
On est sur le Jura. On est sur des karsts. C'est un karst qui est boisé. D'accord. On n'est pas comme à Millau, sur le Larzac. Que dire d'autre? Plus en aval de ces deux, donc de la source bien sûr, et du Lison, le Lison qui est un affluent de la Loue. Plus en aval, la Loue se prélasse dans des méandres miroitants, rendus célèbres notamment par le peintre Courbet, en particulier autour d'Ornans. Alors ces méandres, bien sûr, moi j'ai été intéressé pour faire des images de Belvédère sur ces méandres, notamment proche d'un village qui s'appelle Chénossé, parce que j'avais repéré des vues. Le problème, c'est pour trouver les belvédères. Alors, quand je suis à la maison sur Internet, je les trouve sur Google Earth. Et là-bas, c'est pas pareil. Je me suis fait coincer plusieurs fois avec la voiture sur des chemins mal carrelés, où je me suis un petit peu coincé entre des murettes de rocailles, des arbres, et plusieurs fois, ça a été compliqué. J'ai passé le matin à chercher, j'ai pas trouvé les belvédères. Prêt à renoncer, prêt à tout arrêter, finalement, j'ai trouvé un petit sentier qui, en 10 minutes, m'a amené à un point sublime, où il y avait tout été dégagé. C'était vraiment le point que je cherchais, mais c'est pas toujours très simple.
C'est l'avantage de ces recherches. Nous, en tant qu'auditeurs ou en tant que spectateurs, il suffit de cliquer sur tes vidéos pour voir donc le décor de ces belvédères.
Exactement, exactement. Vous n'avez pas à les chercher.
Voilà.
Si vous voulez plus de détails, il suffit de m'envoyer un petit mail.
Et d'ailleurs, à quelle adresse mail?
Allez sur mon site, randovttvideo.free.fr, vous avez un contact. Le contact, c'est randovttvideo@free.fr. C'est très compliqué.
Tout à fait, voilà. Donc si vous voulez laisser des commentaires par rapport aux vidéos, aussi. Si vous voulez des renseignements, on te contacte.
Exactement.
D'accord.
Alors ensuite, Que j'explique aussi, j'ai parlé un peu vite. Les sources de la Loue, vous ne les verrez pas en image sur cette vidéo. Je donne la raison, c'est que je les ai filmées et montées sur une autre vidéo qui est sur mon site, qui s'appelle « Billets doux ». Alors regardez sur mon site l'année 2012, vous trouverez la vidéo « Billets doux » et vous aurez une vue sur les sources de la Loue, mais aussi les sources du Doubs et bien d'autres, j'en passe.
D'accord. Donc, on rappelle une dernière fois, c'est quoi le site pour aller voir ces vidéos ?
randovttvideo.free.fr.
Voilà. Alors, la suite du parcours.
Je continue à la suite du parcours. Donc, je vous parlais de la Loue. La Loue revient au Doubs, quelques kilomètres en dessous de Dole. La Loue est affluent du Doubs, ce qui fait que l'eau perdue à Pontarlier revient au Doubs un peu plus bas. Elles sont complètement liées. Voilà ce que j'avais bien aimé.
D'accord. Et ce qui est assez rare en France, il faut le dire. Deux rivières qui sont liées comme ça.
Oui, je n'en connais pas d'autres. Ouais. Je n'en connais pas d'autres. Et puis surtout, ce qui est, quand on est spéléo comme nous, c'est des rivières qui donnent envie. Aller voir cette résurgence, les deux résurgences, on a envie de les voir. Au moins, même si on ne peut pas rentrer, on a envie de les voir.
Et en parenthèse, entre ces deux résurgences et toi, il y a toute une histoire, c'est assez lié, non, aussi, dans ton passé de spéléo.
Oui, le passé de spéléo, c'est que j'ai fait de la plongée siphon. Donc, un siphon d'un kilomètre, ça me parle. Je sais ce que c'est. Ouais. Voilà.
Bon.
Alors, je vais vous parler maintenant d'un tourisme d'averti qui m'intéresse. C'est la condition de vie des anciens et leur travail. Il faut savoir que, proche de Dole, Dole, ce serait le point central de mes images, de ma vidéo. Hein. Autour de Dole, il y a la deuxième plus grande forêt de feuillus de France, environ 20 000 hectares. Cette forêt recevait de nombreuses personnes, de travailleurs, des bûcherons, les charbonniers, les radeliers, les scieurs de long, beaucoup de personnes vivaient dans la forêt. À savoir même que sur l'état civil, les enfants qui vivaient dans ces villages, sur l'état civil, il était marqué « né en forêt », comme si c'était un chevreuil. Alors, cette grande forêt était partagée en secteurs, une quinzaine de secteurs, délimités par des colonnes, on en voit sur ma vidéo, des colonnes de pierre d'une douzaine de mètres de hauteur et environ 2 mètres, 2 mètres 50 de diamètre, des rondelles de pierre, empilées les unes sur les autres pour délimiter les parcelles, pour que les gens ne se perdent pas et que les travailleurs se reconnaissent qu'ils sont de tel secteur, et ont baptisé le secteur 1, secteur 2. Alors les baraques dont je vais vous parler, c'est les baraques du, on appelle ça les baraques du 14. Ce sont le seul habitat qui reste dans ces forêts. Les gens ont habité dans ces maisons de terre crue jusqu'en 1970, les derniers. Une association les fait vivre. On peut les visiter. Il reste 4 ou 5 maisons. Les plus anciennes sont du XVIe siècle, 500 ans.
C'est
alors,
énorme,
à l'intérieur, vous trouvez comme si les gens étaient partis la veille. C'est-à-dire, il y a leurs meubles, leurs affaires, leurs outils. Voilà, ça vous donne une idée. C'était des gens quand même miséreux et les conditions étaient difficiles. Encore plus difficiles pour ceux qui vivaient dans les cabanes, notamment les charbonniers, les radeliers, les sieurs de long. Alors, dans cette forêt qui est proche de la Loue, des chemins mènent à la Loue, notamment c'est les radeliers, ceux qui formaient des radeaux, de bois courbés pour les charpentes de bateaux. Ce n'est pas des bois qu'on tordait, on les sciait courbés pour fabriquer les armatures de la charpente des bateaux. Donc il y a des chemins qui sont tracés. Il y avait jusqu'à 600 habitants dans la forêt, en 1970 encore.
De nos jours, au niveau du tourisme, en partant d'un village, on peut y accéder ?
Le village, c'est la vieille Loye. Et on le trouve, oui, c'est fléché. Et puis n'importe quelle de brochure vous en parle. Maintenant, ce n'est pas un tourisme très, très fréquenté. Il faut s'intéresser à ce genre de tourisme. Ouais. Moi, ça m'intéresse.
Oui, à la tradition.
Oui, d'accord. Oui, oui. C'était des travaux de galériens quand même. Il faut en avoir conscience. Hein. Donc, une autre anecdote proche de ces baraques du 14... C'est un arbre à souhait. Alors ça, j'avais jamais vu. C'est pas des cœurs qui sont dessinés sur l'arbre. C'est un gros chêne, plusieurs fois centenaire. Dans ses écorces sont coincés des petits bouts de papier sur lesquels les gens écrivent leurs souhaits. Il y a des dizaines, peut-être des centaines de petits bouts de papier coincés dans l'écorce de l'arbre. Ça, c'est assez original. Dans ce style de tourisme, je vous conseille d'aller à Salins-les-Bains. Salins-les-Bains, comme son nom l'indique, il y a des sources de sel, connues depuis l'Antiquité. Il y a 7000 ans déjà, les habitants s'étaient rendus compte que l'eau remontait salée. Qu'est-ce qui se passe ? À 240 mètres sous terre, il y a 40 mètres d'épaisseur de sel, l'eau de puits s'infiltre et elle remonte, elle finit par remonter. C'est de la saumure, elle est salée, mais elle est salée beaucoup plus que l'eau de mer. L'eau de mer est environ à 10 grammes par litre, que là, on est à 300-330 grammes de sel par litre, dont 120 grammes de sodium, de chlorure de sodium, de sel pour la table. C'est un véritable or blanc, très recherché. Les habitants ont travaillé sur ça. Le problème, c'est que remonter de la saumure, c'est bien, mais il faut la faire évaporer pour récupérer le sel. Quand on est en bord de Méditerranée ou à Guérande, on y arrive. Mais à Dole, c'est pas pareil, c'est plus compliqué, parce que c'est pas le même climat, donc il faut de la chaleur. Alors la solution, ça a été de chauffer la saumure dans des grandes poêles. Du bois, il y en avait à volonté, puisque la forêt était toute proche, et faire des feux sous des poêles pour faire évaporer, par évaporation, pour récupérer le sel. Un travail de galérien, au contact de la chaleur, de l'humidité et du sel, passer des journées à remuer ça, c'était vraiment un véritable travail. Ça a fonctionné pendant des millénaires. Et jusqu'au moment où il fallait aller de plus en plus loin pour chercher du bois. Il y en avait toujours dans la forêt, mais il fallait aller de plus en plus loin. Alors, ils ont trouvé la solution, se dire plutôt que d'aller chercher le bois, que ça coûtait très cher, on va faire couler la saumure vers la forêt et on aura le bois plus près, c'est plus facile. Donc, sous Louis XV, au XVIIIe siècle, par deux canalisations, qu'on appelle des saumoducs, deux canalisations de 21 km pour amener cette saumure à un autre village qui s'appelle Arquessenans. Deux canalisations, pourquoi ? Parce que quand il y en a une qui ne fonctionnait pas, on se servait de l'autre. L'eau coulait dans des troncs de pin qui étaient creusés au centre pour laisser passer l'eau et taillés en pointe comme des crayons, boîtés les uns dans les autres pour l'étanchéité. Bien sûr, il y avait 30% de pertes. Hein. Les saumoducs étaient gardés tous les 2 km des postes de garde pour ne pas se faire voler la saumure. Bon, ça a marché, mais jusqu'au moment où les technologies plus pointues ont fait arrêter la production de sel. C'est dommage parce que Arquessenans, c'est un véritable chef-d'œuvre de construction. C'est Claude-Nicolas Ledoux, l'architecte, qui a fait ça. C'est un véritable palais. Mais quand elle a arrêté de produire, elle a été abandonnée, pillée, endommagée. Et c'est le conseil départemental du Doubs qui en a fait l'achat en 1930 et l'a sauvé de la ruine, parce que c'était un désastre. Et si vous aimez ce genre de tourisme, vous pouvez aller aussi voir le musée des maisons comtoises en Ancré, des maisons du 17, 18, 19e siècle, qui ont été démontées, déplacées et remontées en Ancré. Et les maisons, bien sûr, à l'intérieur, vous retrouvez la vie des gens, avec leurs outils, leurs habitudes, leurs traditions. Vous retrouvez tout ça.
Tout ça, donc, on peut le visiter à partir de quel village ?
Ça, c'est Nancré. Nancré, c'est à quelques kilomètres au-dessus de Besançon. Besançon, tiens, puisqu'on on fait une parenthèse sur Besançon, qui est au bord du Doubs, dans un très beau méandre, parce que le Doubs, lui aussi, fait de beaux méandres. Vous avez la citadelle Vauban à visiter, et vous avez des points de vue, des panoramas sur Besançon et sur le Doubs, qui encercle cette citadelle. Et donc Nancré, le village des maisons comtoises, est à quelques kilomètres de là. Alors je vais vous demander, est-ce que vous savez la différence qu'il y a entre le vin jaune et le vin de paille ? Alors, je vais vous répondre, je pose la question, je fais la réponse. Le vin jaune, c'est issu d'un vin blanc sec, d'un cépage bien particulier, le savagnin, qui doit vieillir minimum 7 ans dans une barrique, sans compléter l'évaporation. Alors que normalement, on complète les tonneaux, là, il ne faut pas la compléter pour que se forme en surface une levure. Au bout de 7 ans, en principe, c'est un véritable nectar. Alors que le vin de paille, c'est un vin liquoreux où on récolte les plus belles grappes que l'on laisse se charger de sucre sur de la paille. Ce n'est pas tout à fait pareil. Le berceau du vin jaune, c'est Château-Chalon. C'est un village qui domine au-dessus de falaises, qui domine tout le vignoble. C'est vraiment un village de carte postale. En face de Château-Chalon, à portée de vue, on aperçoit Arlet, qui est aussi un des plus anciens château viticole qui produit lui aussi son vin jaune. Les vendanges sont tardives, elles se font fin octobre. Sur la vidéo, vous verrez plusieurs fois du drone, notamment à Arlay et à Château-Chalon, sur les vignobles.
Donc c'est vraiment la spécialité du coin.
C'est la spécialité, oui. Ce vin jaune, il est limité à ce vignoble-là, autour de Château-Chalon. Un mot sur la grotte de l'Ermitage à Moissé. C'est un joyau de l'érosion, c'est particulier, mais il ne faut pas y habiter, il y a des courants d'air à tous les étages. Ça a été quand même fréquenté par l'homme depuis très longtemps, par le fait qu'il y a une source qui ne se tarit jamais juste à côté. C'est original. Vous verrez sur la vidéo, vous demandez, qu'est-ce que c'est cette bête avec des pattes bizarres? Non, c'est la grotte de l'Ermitage, à Moissé. Ensuite, vous pourrez aller à Dole. En particulier, vous verrez le quai des Tanneurs, le long d'une canalette fleurie. Et vous passerez à côté de la maison de Pasteur, puisque c'est sa ville natale. Et puis, je vous incite après à aller à Ladoix, ou Ladoix, je ne sais pas, Ladoix, je pense qu'on dit, voir une reculée. Alors, les reculées les plus célèbres, vous avez Baume les Messieurs, vous avez la reculée du Fer à Cheval. Celle-ci est moins connue, mais elle n'est pas moins intéressante. Mais surtout, vous êtes plus tranquille, il y a beaucoup moins de monde. Et pour terminer, je vais dire un mot sur la rando. Vous voyez des images sur ma vidéo, vous verrez des images de VTT. C'est une rando qui part de Dole fin juillet, qui s'appelle la rando des 30 clochers, à laquelle participaient environ 2500 vététistes et randonneurs pédestres. Un circuit autour de Dole d'environ 50 km. Ben juste pour conclure, comme je dis chaque fois, bougez, mais bougez en France. Et puis je vous dis à bientôt.